de philosophie première par le père Philippe à Saint-Joseph le 16 février 1987.
Pendant le chapitre, on maintiendra le matin. Je sais que pour certains, la topique sur la personne est peut-être un petit peu fatigante. Ça fait partie de certaines austérités de la philosophie. Mais je crois que c'est nécessaire. Parce qu'au fond, vous avez peu de cours d'histoire. Il est quand même bon d'avoir un tout petit peu de connaissance général de la pensée philosophique occidentale. Je ne vois pas l'Inde. Je voudrais faire parallèlement l'Inde. Alors là, vous crieriez. Et pourtant, ce serait bien intéressant. Profitez de cette occasion pour vous-même. Ensemble de la pensée philosophique. Je crois que c'est nécessaire, ça fait partie de la culture philosophique. Je sais bien, pour les novices, peut-être que c'est peut-être pas le moment, et au moins ceux qui sont dans la seconde année, qui sont encore un peu novices, c'est nécessaire de le faire. C'était. On m'avait demandé, je n'ai pas eu le temps de le faire, de faire parallèlement à l'être un ami, l'être un ami d'eux, en faisant une vision historique de différents moments de la pensée philosophique. Vous pouvez regarder ce que Merleau-Ponty a fait de cette manière, dans ce gros livre énorme, qui est comme une espèce d'encyclopédie d'Olympe de la philosophie, les génies. Puis l'avantage, c'est qu'il y a des photographies, pour ceux qui peuvent avoir des photographies, ou des portraits. Alors c'est quand même bon, quand on parle de Descartes, d'avoir une tête devant soi. Aussi de Platon, ça aide audiovisuel. Il faudrait faire ça dans là, il y aurait un portrait, vous voyez, qui serait là. Si on était moderne, c'est ce qu'on ferait. Alors on aurait pendant tout le coup des cartes, vous auriez le portrait des cartes pendant tout le coup projeté. Ça vous aiderait peut-être, mais regardez ça, ça vaut la peine. C'est pas bête du tout la manière dont Merleau-Ponty ponctue l'histoire de la philosophie. C'est un très beau livre. Vous pouvez regarder aussi comment le père Maréchal, au point de départ de la métaphysique, ponctue l'histoire de la philosophie. C'est très différent, mais c'est ça qui est intéressant du reste. Mais pour, au moins, dans la mesure où vous nécessairement, mais c'est quand même utile pour que ce que nous faisons prenne un peu son intérêt, parce que autrement ça risque de passer complètement au-dessus de votre tête. Je crois que pour les troisième année et les quatrième année, c'est important. Alors pour la première année, je m'excuse, ils pâtissent un peu, mais ça fait partie des cours. Si on n'a pas bâti un peu dans les 96. C'est pour ça que je continue, malgré ça, parce que j'ai reçu des petits billets de certains qui disaient vraiment, père, est-ce que c'est utile tout ça? Et je dis oui, c'est utile tout ça. Parce que nous faisons partie de cela. Il faut au moins comprendre qu'il y a eu des philosophes avant vous. Ça nous rend humbles, petits. Ça nous fait comprendre que lorsqu'on traite un sujet, on doit au moins regarder ce que les autres ont pu dire. Et pas croire qu'il y a des générations spontanées en philosophie. Vous savez, les têtards du Moyen-Âge, c'était les générations spontanées d'Albert le Grand. Et tous ces philosophes disent quelque chose d'intéressant. Et en même temps, on voit le grand tournant. Alors voyez, ce que je crois important, parce qu'il faut essayer d'en profiter le plus qu'on peut. Alors, vous ne pouvez pas tous vous spécialiser en philosophie, c'est pas votre rôle. Mais ayez au moins une culture. C'est nécessaire. Mais pas mettre Descartes avant Jésus-Christ. C'est un peu gênant, ça. Et pas mettre Aristote au 3e siècle après Jésus-Christ. Il faut au moins connaître un tout petit peu. Vous savez, la carte de la philosophie grecque, alors moi je ponctue différemment. Hein. Mais je vous dis ça parce que ça peut être intéressant pour vous. J'ai beaucoup aimé le livre du père Maréchal, qui est intelligent. Je cite les deux, Maréchal et Merleau-Ponty, parce que c'est deux trucs tout à fait différents. Il y en aurait d'autres. Il y aurait Chevalier, l'histoire de la pensée. Le père Maréchal essaie de saisir le point de départ de la métaphysique. Et ça m'a éveillé pour faire le terme de la métaphysique. C'est ça qui a été pour moi la recherche constante au terme de la métaphysique. Au terme de la métaphysique, c'est voir ce que chaque philosophe dit sur Dieu. Je crois que tous les philosophes sont conscients du sommet auquel ils aboutissent. Tous les philosophes ne sont pas conscients du point de départ. C'est une lacune. Mais ça arrive. Parce qu'il y a des philosophes qui naissent dans le brouillard. Et ils resteront tout le temps dans le brouillard. Ce qui est très extraordinaire dans la philosophie réaliste d'Aristote, c'est qu'il sait son point de départ. Et ça, c'est pas si commode que ça. L'expérience. Vous voyez, Platon, la réminiscence, c'est assez vague. Et c'est pas seulement la réminiscence. Il y a Diotime qui vient réveiller Platon. Qui vient réveiller Socrate dans Platon. Il y a Parménide qui vient le corriger. Donc ce qui montre que la réminiscence a besoin d'être corrigée. Et a besoin d'éléments qui viennent le réveiller. Donc le point de départ de la philosophie de Platon, c'est pas si commode. Le point de départ de la philosophie de Parménide, et ainsi de suite. Ordinairement, le point de départ est un peu caché, tandis que le terme est toujours net. C'est pour ça que je crois que c'est intéressant de réfléchir sur cela. Le point de départ, le livre du père Maréchal, les livres du père Maréchal, parce que c'est beaucoup. Et c'est intéressant à regarder. Le terme. Puis Merleau-Ponty, c'est quelqu'un qui est très proche de nous, quand même. Au moins de moi. Pour vous, c'est déjà un fossile. C'est pas... Mais pour moi, c'est quand même un contemporain. Et Merleau-Ponty donne une vision moderne. une espèce de ponctuation de l'histoire de la philosophie. On peut en donner d'autres. Et c'est très vrai que quand on regarde par rapport au terme, par rapport au mystère même de Dieu, on voit que on peut ponctuer l'histoire de la pensée selon la grande montée grecque. C'est vrai, il y a une grande montée grecque. Vous êtes sensible à ça. Avec deux grands sommets, Platon, Aristote. Après, on peut dire qu'il y a une espèce de haut plateau, le néoplatonisme. Puis, ensuite, il y a toute notre pensée philosophique qui a été assumée par la foi. Vous voyez, c'est très différent de voir la naissance de la pensée philosophique à partir des traditions religieuses. C'est la pensée grecque. C'est le logos contre le moutos. Ça fait très bien dire ça. C'est Heidegger qui dit ça. Et Heidegger est très sensible à ça. Comment le logos est victorieux du moutos, le mythe religieux. Et c'est à travers ce mythe religieux que le logos grec a essayé d'être victorieux. Et il a été victorieux. C'est vrai. C'est très intéressant de voir cette espèce de dialogue constant entre le logos philosophique et le mythe religieux. Ensuite, on peut dire qu'il y a un autre grand mouvement. C'est les pères de l'Église qui vont être à la racine des théologiens. Vous voyez alors un autre dialogue, la foi et la philosophie. Et c'est tout à fait autre chose. C'est la foi qui assume. Vous voyez, c'est intéressant parce que ça montre que la pensée philosophique, au point de départ, n'a jamais été seule. Elle s'appuie sur un fond mythique, religieux. Puis, elle est assumée par la foi. Et c'est vrai, elle est assumée par la foi. Et vous avez les pères de l'Église et les théologiens. Et peut-être que les théologiens ont été trop loin dans la logique. Réaction violente d'une libération de la philosophie. Et ça, c'est très important de comprendre ce grand mouvement d'une libération de la pensée humaine avec Descartes. Se libérer du joug des théologiens et essayer de découvrir une pensée philosophique qui est sa certitude. Et on peut dire que ce mouvement de Descartes, qui correspond à quelque chose de tout à fait nouveau, c'est le troisième grand moment, va de Descartes à Hegel, avec des nuances très très différentes, hein, en gros. Et après l'hegelianisme, on est devant quelque chose de magistral. Il faut bien dire ça, la pensée de Hegel est magistrale. Elle est géniale. Ça ne veut pas dire qu'elle soit vraie. C'est très curieux. C'est la raison qui assume, qui ramène tout à elle. Et après la libération, c'est la raison qui assume la foi. Dans la libération, on distingue bien le domaine de la foi, du domaine de la raison philosophique. Et la raison philosophique, avec Hegel, absorbe la foi. C'est le bois. Le bois philosophique. C'est ce qu'il y a d'extraordinaire dans Hegel. C'est pour ça que c'est si séduisant et si terrible. Je me souviens de la réaction père du Barle, quand on l'avait invité à Fribourg, il y avait tout un groupe de théologiens qui voulaient secouer le thomisme en disant « Servons-nous de Hegel, mettons-nous un tout petit peu à l'ordre du jour. » Alors, ces théologiens avaient invité divers hegeliens. Il avait invité le père du Barle, qui a pas mal étudié Hegel. Et le père du Barle a exposé un peu la pensée de Hegel. Et puis il leur a dit après, parce qu'il savait bien qu'il se trouvait devant des théologiens, de jeunes théologiens, il dit, surtout ne faites pas une nouvelle théologie à la manière de Hegel, parce que vous perdrez la foi. Alors évidemment, c'était juste l'inverse de ce qu'on lui demandait de dire. C'était d'autant plus éloquent. Il pouvait le dire. Ce qui est vrai, je crois que quand on commence à mettre le petit doigt dedans, c'est tellement puissant comme dialectique. Sûrement que Hegel représente un moment, je dirais, de Descartes à Hegel. En passant par Kant. Et puis avec, après Hegel, vous avez la diaspora philosophique, ça va dans tous les sens. L'éclatement, c'est l'éclatement philosophique. Et à partir de là, va naître les idéologies athées. Les idéologies athées, c'est cette espèce d'éclatement. Jusque-là, les philosophes, d'une façon générale, ils peuvent être sceptiques, mais ils sont respectueux vis-à-vis de Dieu. Ils peuvent être un peu positivistes, mais ils sont respectueux. Ils peuvent se dire Dieu, mais Dieu existe encore en eux. C'est déjà quelque chose. C'est une manière suprême de respecter Dieu. C'est les primitifs, pour honorer leurs ancêtres, ils les mangent. Alors, c'est une manière d'honorer Dieu, c'est de l'assimiler et dire au terme « je suis Dieu ». C'est un peu Hegel, ça. C'est extraordinaire de voir ça. L'assimile. Et alors après, cet éclatement. Oui, c'est une nouvelle libération. C'est très curieux. Une libération par rapport à l'ontologisme pris d'une façon absolue dans Hegel. Et alors on veut sauver la liberté de l'homme. Et je crois que c'est ça qui est au cœur de toutes les idéologies athées. Le carcan ontologique, on n'en veut plus. Et on veut découvrir la liberté de l'homme. C'était déjà présent dans Descartes, mais avec respect. C'est pour ça que Sartre dit « Descartes, en réalité, c'est le premier athée. » Et que si Descartes aurait vécu en même temps que Sartre, ils se seraient embrassés en disant « Dieu n'existe pas, c'est la liberté de l'homme qui est l'absolu. » Face à ces idéologies athées, on voit toute une série de renouveaux de la philosophie. On peut dire qu'il y a un renouveau à partir de Hegel, dans des sens très divers, multiples. C'est la diaspora philosophique, dans des sens multiples et divers. Des petites familles philosophiques qui naissent à droite et à gauche. Je crois que c'est important, voyez, d'essayer de comprendre ça. Donc, un grand topic historique sur la pensée occidentale, c'est ce que les philosophes disent de Dieu. Ils le rejettent. Ils disent qu'on ne peut pas l'atteindre. Ou au contraire, ils disent Dieu existe. Il y a un créateur. Et donc, la pensée religieuse est intégrée dans la philosophie. Vous voyez, la philosophie est née à l'intérieur des mythes religieux. La pensée philosophique doit progressivement intégrer l'attitude religieuse. Intégrer l'attitude religieuse, ce n'est pas supprimer l'absolu et la transcendance de Dieu. Au contraire, c'est de montrer que l'homme est dépendant d'un être premier, que les traditions religieuses appellent Dieu, appellent le Créateur. La topique sur la personne que nous faisons, c'est pas le terme ultime. J'allais dire, c'est l'intermédiaire. J'aimerais faire ça comme ça, vous voyez. Je vous dis ça pour que vous essayiez d'y réfléchir. Donc, maréchal, le point de départ. Ça, c'est très net. Quels sont les points de départ des philosophes? Alors, faites-le très simplement, très... C'est intéressant à voir, et c'est très net dans la philosophie grecque. Le point de départ de la philosophie, on voit tout de suite l'expérience, l'inspiration, l'expérience externe, l'expérience interne, l'inspiration, la révélation. Vous avez tout, déjà en philosophie grecque. Je crois que vous avez les grands départs de la philosophie. Vous avez l'expérience externe, au sens fort, puis l'expérience religieuse, puis Milet, l'école de Milet, c'est un peu ça, les pythagoriciens, c'est un peu l'expérience religieuse, puis la réminiscence, non, l'inspiration, la révélation, Parménide, la réminiscence, la révélation, la réminiscence de Platon. Puis on retourne à l'expérience, et ainsi de suite, les points de départ. Puis tous les autres points de départ, à partir de Descartes, vous avez le sommet de la pensée philosophique, ce que le philosophe dise de Dieu. Le terme Dieu est extrinsèque à la philosophie. Comprenez bien, hein, le terme Dieu, le mot Dieu, n'est pas un mot philosophique. Ça, je crois que c'est très, très important de le comprendre. Le terme Dieu, il ne faut pas l'annexer. C'est un terme de tradition religieuse. Le philosophe essaie de comprendre ce qu'il y a de juste dans ces traditions religieuses. Le philosophe peut critiquer les traditions religieuses. Tandis que le philosophe ne peut pas critiquer la foi. Et ça, c'est capital de comprendre cette situation. Hein. Donc, le sommet, les sommets, les différentes manières de concevoir ce sommet, l'un, le bien, l'acte pur, et ainsi de suite, les sommets. Puis, entre deux, vous avez l'âme et la personne. Et je crois que c'est... Donc on peut faire toute l'histoire de la philosophie occidentale par le point de départ, le faire par le sommet, et puis le haut plateau, si vous voulez. C'est le haut plateau. On s'arrête là, c'est l'âme et la personne. L'âme, j'allais dire, c'est toute la philosophie grecque. Platon, Aristote, c'est l'âme qui est au cœur de toute cette attitude intermédiaire. Et puis la personne, c'est à partir des stoïciens. C'est enraciné déjà chez la philosophie grecque. Mais ce sera le grand point de départ après, dans toute une philosophie. Alors c'est ce que nous essayons de voir, vous voyez. La ponctuation de Merleau-Ponty, c'est une ponctuation critique. Donc, j'allais dire, trois aspects critiques. C'est très légitime de ponctuer l'histoire de la philosophie par le point de vue critique. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence liée aux traditions religieuses, liée à la foi ou en opposition avec la foi. Il a des chances qu'il veut découvrir. Vous voyez, c'est une réflexion normale. Merleau-Ponty, éphémologue. Et donc, c'est une attitude réflexive et critique. C'est la manière de ponctuer l'histoire de la philosophie. Je crois que vous avez ces trois grandes ponctuations. Et ce que nous faisons ici, dans cette topique sur la personne, c'est parce qu'on est convaincu. Je le suis. Vous l'êtes peut-être. C'est qu'on est convaincu que, de fait, le problème de la personne, nous, d'une manière très particulière, toute la philosophie occidentale. C'est le problème philosophique central où la personne sera le sommet, où la personne sera le tremplin. Voyez bien, la personne, c'est ce que disaient déjà les néoplatoniciens, c'est l'horizon entre le visible et l'invisible. Et donc c'est où le sommet, je m'arrête à cela, comme l'âme. Mais c'est le passage, on verra le lien entre l'âme et la personne. C'est évident que c'est l'âme et la personne qui est le grand métaxu, en quelque sorte. C'est d'une certaine manière le sommet d'une pensée philosophique qui analyse. Alors on peut s'arrêter à la personne, dire rien n'est au-dessus de la personne humaine. Au contraire, se servir de la personne, je dis bien, se servir métaphysiquement de la personne pour aboutir à l'existence de l'être premier, celui qu'on appelle Dieu. Alors, ce qui est important, c'est de voir que le mot Dieu est un mot de tradition religieuse. Le mot âme est un mot de tradition religieuse, tandis que le mot personne n'est pas un mot de tradition religieuse. Il est né en philosophie grecque, mais il a été développé par les théologiens. Alors c'est l'aspect chrétien. C'est très curieux. C'est l'aspect chrétien de la personne. C'est là où on pourrait dire qu'il y a une métaphysique chrétienne, entre guillemets. C'est que c'est vrai que le problème de la personne a pris une importance énorme chez les théologiens, chez les chrétiens, les pères de l'Église et les théologiens. Et quand aujourd'hui les philosophes regardent la personne, ils oublient complètement que ce problème est enraciné d'un point de vue chrétien. Ils n'acceptent plus l'âme, parce que l'âme a saveur religieuse. Ils acceptent la personne qui a saveur chrétienne. C'est intéressant, du reste, c'est très intéressant de voir ces choses-là, parce que ça montre que la philosophie comme telle, c'est normal, ou s'appuie sur les traditions religieuses, ou elle s'ouvre vers la foi. Mais qu'elle n'est jamais existée à l'état pur. Quand elle quitte les traditions religieuses, elle s'appuie sur la science. Descartes veut quitter les traditions religieuses, il veut quitter le point de vue de la théologie. Alors, ce qui est très curieux, c'est qu'immédiatement il s'appuie sur la géométrie. On veut libérer et on tombe dans un esclavage. C'est vrai, une philosophie qui dépend du modo géométrico, c'est pas une liberté absolue. Je crois que la foi respecte plus la pensée philosophique que la science. Kant tombe dans le thème, le modèle de la physique. Hegel, alors là, c'est très curieux. Hegel, c'est l'ontologisme le plus absolu. C'est peut-être Hegel le seul, mais voyez alors avec cette attitude tout à fait particulière, qui est une indépendance absolue. Mais cette indépendance absolue, vous vous souvenez, Monsieur Bourgeois a commencé à nous parler sur Hegel. Je suis luthérien. Et donc, là encore, il veut l'indépendance et pourtant il s'appuie sur sa foi. la foi luthérienne. C'est très curieux. Et c'est très important de saisir ça. Alors, à partir de Hegel, la diaspora, vous partez dans tous les sens. Mais c'est toujours très intéressant de voir quand la pensée philosophique veut acquérir une indépendance absolue. C'est très rare qu'elle puisse rester dans cette liberté intérieure. Je crois personnellement que seul le jugement d'existence permet à l'intelligence d'acquérir cette liberté. C'est pour ça que saint Thomas a affirmé 178 fois, je crois que c'est le nombre, il y a une petite thèse qui s'est faite à la grégorienne là-dessus. Primo cadit in intellectus ens. Il y avait longtemps qu'on ne l'avait pas dit. Il fallait le répéter. Primo cadit in intellectus ens. C'est pas pour rien. Saint Thomas a compris que l'oxygène de l'intelligence, que la respiration de l'intelligence, c'était ce contact avec ce qui est. Donc, jugement d'existence. Et on essaie de comprendre ça, il faut essayer de comprendre ça à travers ce grand mouvement philosophique avec des aventures multiples et diverses. Mais il faut essayer de comprendre qu'après Hegel, il y a quelque chose de nouveau. Il y a un renouveau de la philosophie. Évidemment, peut-être néo-hegélien. C'est sûr, mais en réalité, à partir de Hegel, il y a quelque chose de nouveau. Et on voit bien que le thomisme a essayé de trouver sa voie. Il y a aussi un renouveau thomiste après Hegel. Mais je crois que le thomiste ne peut redécouvrir sa vitalité que dans ce retour à sa racine grecque. Donc, redécouvrir le point de départ de la respiration de l'intelligence. Et le point de départ de la respiration de l'intelligence, c'est le toucher de l'intelligence à l'égard de ce qui est. Et la première respiration du petit enfant, tant qu'il n'est pas né, il est dépendant du milieu. Et il n'a pas son autonomie biologique. À la naissance, il a son autonomie biologique, sa première respiration. Eh bien, il y a une première respiration de l'intelligence, par où l'intelligence découvre son autonomie. Parce que quand l'intelligence est portée par les traditions religieuses, elle n'a pas son autonomie. Quand l'intelligence est portée par la foi, elle n'a pas son autonomie. Et en fond, on pourrait dire que toute cette grande histoire de la pensée philosophique occidentale, c'est l'intelligence qui cherche son autonomie. Elle cherche à être autonome. Donc, c'est le problème de la personne. Et elle est autonome grâce à l'intelligence. Il y a une intelligence qui va jusqu'au bout de ses exigences. Et c'est là qu'on va retrouver au terme, je vous le dis tout de suite parce que c'est quand même ça qu'on va chercher, comment le problème de la personne ne peut être qu'un problème métaphysique. L'intelligence qui découvre ce qui est grâce au jugement d'existence aboutit à cette autonomie profonde de la personne. Et découvrant cette autonomie, elle devient capable de se dépasser. Seul un être autonome accepte d'être dépassé. Un être qui n'est pas autonome est toujours en revendication. Et donc, il n'accepte pas d'être dépassé. C'est le petit chien qui aboie tout le temps parce qu'il a peur. Tant qu'on n'a pas découvert son autonomie, on a peur. Et donc on est tout le temps dans l'attitude de celui qui a envie de mordre. Et intellectuellement, on voit bien ceux qui ont envie de mordre. Ils n'acceptent pas d'être dépassés. Et au fond, c'est comme ça que se pose le problème de l'existence de l'être premier. C'est que le philosophe, le petit philosophe, qui reste bourgeois, c'est très curieux. Le petit philosophe, Descartes est un petit philosophe qui reste bourgeois. Il n'a pas atteint son autonomie, Descartes, absolument pas. Il n'a jamais découvert l'être. Il est resté dans l'idée, dans son idée. Et il a été fidèle jusqu'au bout à son idée. Il est resté dans son idée, donc il a été asphyxié par son idée. Et la philosophie, redécouvrant son autonomie avec Descartes, est restée dans cette attitude jusqu'à Hegel. Hegel, ça a été tellement fort que Hegel provoque des réactions violentes. Je crois que c'est très important pour nous d'essayer de comprendre que le problème de la philosophie, c'est de découvrir l'autonomie radicale de l'intelligence. Et découvrir cette autonomie radicale de l'intelligence, c'est comprendre que l'intelligence, dans ce qu'elle a de plus grand, c'est d'être dépassée par l'amour. Et quand elle accepte d'être dépassée par l'amour, alors elle peut être dépassée par celui qui est l'amour substantiel, qui est Dieu, qui est l'être premier. Je crois qu'il y a un premier dépassement, la transcendance dans l'immanence, ce que Hegel a cherché toute sa vie, la transcendance dans l'immanence, c'est le passage de l'intelligence qui a acquis son autonomie en découvrant l'être capable de découvrir le primat du bien dans l'ordre pratique par rapport à l'être. Et donc de comprendre qu'une intelligence acquiert son autonomie pour laisser passer devant l'amour. Est-ce que ce n'est pas ça le problème de la personne? Est-ce que le tragique de la personne, pour parler en termes nietzschéens, ce n'est pas de voir qu'en nous, il y a toujours deux exigences, celle de l'intelligence et celle du cœur, et de les découvrir avec la plus grande acuité qui soit, et de comprendre que l'intelligence, c'est vrai, elle a un titre de noblesse unique, ce que dit saint Thomas, et que ce titre de noblesse unique consiste à s'effacer devant l'amour. Ça, c'est pour vous faire comprendre l'intérêt que nous faisons dans cette petite recherche. Parce que pour moi, il y a trois grandes grades de pic, vous voyez. Il y en a quatre, si vous voulez, parce que vous pourriez mettre quatre. Ici, je mets intermédiaire. Donc, elle est d'intermédiaire entre deux. Mais celle-ci, celle de Merleau-Ponty, est très importante en critique. Ponctuer toute l'histoire de la pensée au point de vue critique. Voir jusqu'où on a atteint l'autonomie. Merleau-Ponty ne le fait pas d'une façon absolue comme ça, mais ce qu'il dit permettrait de donner une critique de l'autonomie de la pensée. Alors, continuons. Ceci, c'est pour vous donner un petit peu d'oxygène. Et pour que vous compreniez la signification de ce tunnel. Ce tunnel de la topique. Difficile, c'est vrai, on a des grands-pères qui sont curieux. On a des grands-pères qu'on connaît bien. Aristote, Platon, ils ont une barbe. On les connaît bien. Ça, la philosophie grecque. Mais quand on arrive aux théologiens, on se dit, pigre, c'est vrai, les théologiens, les grands théologiens, sont nos grands-pères. Thomas d'Aquin. Don Scott. Occam. Suarez. C'est comme ça qu'il faut les voir. Je n'ai pas le temps de les voir suffisamment, mais... Thomas d'Aquin. Vous savez, c'est comme toujours ceux qui ont été très loin. Ceux qui sont géniaux. Hegel est génial à sa manière. Ceux qui ont été très loin, après eux, il y a des chutes. Thomas d'Aquin était très loin. Immédiatement après lui, Henri de Gand. Don Scott, Occam, Suarez, ce sont des gens très curieux. Très intéressant à étudier ces théologiens après saint Thomas qui ont leur grandeur. Henri de Gand a eu peur d'Aristote, condamnation de la Sorbonne. Donc on revient à Avicenne. Don Scott a voulu maintenir Thomas d'Aquin et Henri de Gand. Il a fait un éclectisme. Occam a voulu revenir Aristote, mais par le point de vue logique. Et Suarez veut sauver saint Thomas. Dans l'intention. C'est très curieux, ces théologiens qui n'ont plus, voyez, un regard de vérité aussi absolu que saint Thomas. Saint Thomas, lui, il a découvert l'autonomie de l'intelligence. Ça, je crois que c'est la grandeur de Thomas d'Aquin. Il a découvert l'autonomie de l'intelligence. Et parce qu'il a découvert l'autonomie de l'intelligence, il peut être un vrai théologien, mettre au service l'intelligence, mettre au service de la foi l'intelligence. Vous savez, pour mettre l'intelligence au service de la foi, il faut avoir découvert l'autonomie de l'intelligence. Comment le fait-on ? Et Thomas d'Aquin a cette liberté, il recherche la vérité. Ben, s'il voit qu'Aristote lui donne plus que Platon et le néoplatonisme, ça lui est égal. On lui tira dans le dos, ça lui est égal, il continue. Parce qu'il recherche la vérité. Et rechercher la vérité, ça donne cette liberté intérieure. Tandis que sitôt après, on a peur de la Sorbonne, Henri de Gand. On a peur de quitter saint Thomas, et pourtant il ne faut pas quitter Henri de Gand. Alors on fait une espèce d'éclectisme. Ordinairement, les philosophies éclectiques, c'est des philosophies de la peur. C'est des philosophies du repliement. On veut ménager les deux. Puis Occam, Occam il n'a pas peur. Mais Occam n'a pas découvert la liberté de l'intelligence. Pourquoi ? Parce que pour lui, ce que l'intelligence saisit en premier lieu, c'est l'être de raison. Et l'être de raison ne vous donne pas la liberté, parce que l'être de raison... c'est le fruit de l'intelligence. Comment voulez-vous acquérir l'autonomie de l'intelligence ? En vous servant de ce que l'intelligence secrète par elle-même, son fruit. C'est impossible. Et donc, Occam ne découvre pas la liberté de l'intelligence, l'autonomie de l'intelligence. Et c'est pour ça qu'il y a un primat de la logique. Il a servi la foi à la logique. Et ça, c'est terrible. Alors, regardons, à partir de Descartes, une conception toute nouvelle de la personne. Et cette conception toute nouvelle de la personne, vous allez voir, c'est la personne va se définir par la conscience. Parce que c'est la certitude qu'on cherche, ce n'est plus la vérité. Chercher la certitude, est-ce que c'est pas le fruit d'un complexe de peur ? C'est pour ça que j'ai dit petit bourgeois. Il a peur. Il n'a plus cette attitude extraordinairement nette d'une recherche de la vérité. Il a sur lui, à sa décharge, des théologiens éclectiques. Qui n'ont plus chercher la vérité au sens absolu. Chercher à sauver Thomas d'Aquin, ce n'est pas la recherche de la vérité. Vous comprenez bien. Ça peut être très grand au point de vue moral, au point de vue prudence, mais ça n'a pas la dignité de la sagesse. On ne cherche pas à sauver Dieu, et on ne cherche pas à sauver un grand personnage, si grand qu'il soit. On cherche la vérité. La recherche de la certitude, ça prouve très bien qu'on n'a plus cette autonomie fondamentale de l'esprit et qu'on considère que le point de vue pratique est plus important que le point de vue spéculatif. Que le point de vue pratique est plus important que la contemplation. Alors c'est très curieux. Ce mouvement, on le trouve en philosophie grecque avec les stoïciens. Et on le retrouve en philosophie face aux théologiens avec Descartes. C'est pour ça qu'il y a une alliance secrète entre Descartes et les stoïciens. C'est très curieux. Il y a une alliance secrète entre les deux. Dans l'ordre pratique. Parce que dans l'ordre pratique, quand vous cherchez la certitude, ce n'est plus une attitude contemplative. C'est une attitude d'un primat pratique. Alors, on essaiera de voir.